Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, bonjour Victoria Koronakis.
Bonjour.
Comment allez-vous? Je ne le demande jamais en début d'émission, mais nous enregistrons très longtemps avant la diffusion, et aujourd'hui où nous enregistrons, nous sommes dans cet avril du printemps, qui n'est pas l'avril au Portugal, même si mon dernier livre a été inspiré par une amie de ce pays. Comment allez-vous dans ce printemps, ou peut-être aujourd'hui où nous enregistrons, à la veille du troisième week-end d'avril, nous ne serions peut-être pas loin d'une paix en Orient, qui sait? Est-ce que les affaires du monde ont de l'importance dans votre vie?
Bien sûr, mais tout passe par le filtre de notre être.
Alors, est-ce que c'est parce que vous avez fait métier de psychothérapeute que vous êtes dans l'être, ou est-ce que c'est votre origine grecque? Enfin, qu'est-ce qui fait de vous, mieux qu'Ulysse qui fut personne, un être à part entière?
C'est pas du faire, c'est du devenir. C'est-à-dire, le désir que j'ai eu, a priori, à l'âge de 16 ans ou de 14 ans, de devenir thérapeute, c'est-à-dire d'améliorer la vie et la manière d'être des gens, de ma famille d'abord et de ce que j'observais autour de moi, m'a mise sur un chemin de devenir où l'intérieur et l'extérieur, le monde et soi, s'échangent, nous apprennent, nous enseignent et nous conduisent à nous exprimer, d'où cette poésie aussi.
La poésie est entrée, puisque j'ai sous les yeux votre livre paru à 100 000 milliards, Évidence et certitude. Évidence et certitude. C'est votre premier ouvrage, c'est une totalité, une anthologie, ou c'est une expérience qui se résume à quelques mois, quelques années?
C'est une anthologie, finalement. Vous savez très bien trouver le mot. C'est quelque chose que j'ai commencé à l'âge de 29 ans, à un moment critique de mon existence, et où la muse de la poésie est venue à ma rencontre. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris cela, et que les Grecs ont raison, parce que tout est rencontre, et que ça se passe à des niveaux subtils que nous ne captons pas, mais si nous osons rencontrer, nous tourner vers cette rencontre, ils peuvent se produire des prodiges. Et je crois que ça, c'est quelque chose, sans en avoir conscience, qui se développait dans mes poèmes, entre 29 ans et 79 ans, et je continue à écrire. Voilà.
Donc 50 ans de poésie. Par parenthèse, j'ai évoqué tout à l'heure la paix. Or, vous êtes arrivé à Paris à 18 ans, donc en 1962, l'année de la paix d'Évian. Une paix provisoire, comme toutes les paix. Difficile, bien sûr, mais malgré tout, un arrêt sur image. Comme vous le savez, cher Victoria, puisqu'il vous arrive peut-être d'écouter cette émission, entendre la poésie est important, puisque la poésie à l'origine est strictement orale. Et je voudrais lire extrait de ce livre, un poème qui m'a beaucoup touché. Leurs visages sont noirs, de halte, de hâte, et de nuit sans sommeil. Vont-ils jamais revenir? Elles ont passé la nuit à laver leur linge blanc sur blanc de l'aurore qu'elles attendent. Le ciel se lève. Du noir passe au gris et du gris au bleu, d'or resplendissant. Et les barques sont encore loin. Où est ce retour qui en vaut tant? Un coq chante, le soleil lui, le linge sèche. L'odeur du miel s'élance vers le ciel, et ceux qui sont partis au large se mesurer avec les cordages de la prochaine tempête n'ont eu vent de celle dont la vie les attend. Des années se sont passées, le linge continue à sécher, et la crête du navire, tel le coq qui chantait, a choisi d'autres rives pour son ancre plantée. Et les femmes n'ont de cesse de tresser leurs paniers, et les larmes n'ont su où semer leurs pommiers. Dans la cour du jardin, un arbrisseau plantèrent, et la trame du récit ont donné pour se faire dans les nuits sans sommeil. Qu'attendre? Et que faire? sans la halte du temps, qui poursuit son affaire, quand l'absence se fait ombre et ne sait se faire prière. Et le linge asséché du tumulte de leur cœur, car les hommes sont trop loin pour éteindre leur peur, et la nuit encercle le jour comme un fil de fer tendu entre deux univers. Et les femmes sont assises dans l'attente douce de ceux dont elles n'ont plus que faire. Si la vie est enfer, l'affaire c'est la vivre à rebours de cette misère. Faire du miel de l'encens et de l'encens une ruche pour bercer leurs amours sans merci, leurs attentes sans retour, leurs enfants sans adieu, leurs mystères sans clôture, leurs étreintes sans lendemain. Voudrais-tu leur tendre la main ? Et voilà que je clôt le poème, et voilà que je l'ai lu à cause du dernier vers. Car, dans ma propre poésie, c'est le dernier vers qui donne le sens que je cherchais. Voudrais-tu leur tendre la main ? C'est toute votre vie qui est là.
Ah, tout à fait. Et c'est un des poèmes que j'aime le plus et que j'arrive difficilement à lire sans une grande émotion. Alors merci de vous en être chargé.
Oui, et je lui ai donné par moments, comme vous l'avez vu, ses attentes de ces deux petits vers. Comment écrivez-vous, cher ami Victoria ? Vous écrivez lentement, vous écrivez d'un coup, vous écrivez réfléchissant. Vos poèmes sont faits à la fois de pensées et de sentiments, et ces poèmes sont évidemment des rencontres. C'est eux qui vous révèlent qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être.
Oui, au fond et à la fin, c'est cela. C'est un jaillissement, c'est une idée. Il y a quelque chose qui prend forme, qui me surprend, qui vient vers moi, et à partir de là, je note fiévreusement. Et cette forme, ça mincit, ça s'assouplit, je la reprends au niveau des mots, mais elle vient en amont du langage, de la pensée, ça c'est sûr, ou en amont ou au-delà. Et après, comme le sculpteur, je lui donne forme petit à petit.
Vient de paraître... Souvent, j'interpole dans mes interviews, mes rencontres, mes conversations, puisque ce sont des conversations, ce que je viens de lire dans un journal et autres. Je lis La Croix, et dans une des dernières livraisons de La Croix de ce jeudi 16 avril, puisque nous enregistrons le vendredi 17, voilà, est signalé le livre de vers d'un poète que j'aime beaucoup, qui est Jean-Pierre Lemaire. Et un extrait, et que je vous fais entendre, pour vous faire réagir, chère Victoria, le poète Pierre Lemaire écrit « Dernière feuille de l'érable ». Je le scande comme c'est scandé dans sa poésie, c'est des tout petits vers. Je répète « Dernière feuille de l'érable ». Il a déposé ses habits à ses pieds. Il est nu, prêt à passer l'hiver. Pourquoi j'ai choisi de lire cela ? Parce que est-ce que pour vous, justement, écrire, c'est se mettre à nu et être prêt à passer l'hiver du monde ?
Oui. Oui, mais sans que ça soit voulu ou recherché, ça se fait, le dénudement se fait par ce qui vient nous happer, cette émergence, cette idée, cet état. C'est un peu comme un état de prière. C'est un peu comme un état d'élévation. Mais qui nous surprend, hein, qui n'est pas prémédité.
Alors, prière, élévation, des mots du langage religieux, la poésie, m'interrogeait ce matin quelqu'un qui est un architecte, comme moi, puisque c'est mon métier principal aujourd'hui, et cet homme est breton, et a une grande spiritualité, et en même temps, un goût pour la littérature, et il me disait... Est-ce que la littérature et la poésie en particulier, sachant que, comme vous le savez, j'ai été élu prince en poésie, donc pour les gens, je suis à la fois l'un, l'autre, et puis d'autres choses. Il m'a dit, est-ce que c'est une fuite? Je lui ai dit, non, c'est une traversée.
Ah oui.
Vous êtes d'accord?
Ah oui, ah oui. En tant que grec, encore plus.
Oui, je suis frappé, j'ai une très grande amie qui est peintre et qui est grecque, et qui a sa maison, enfin ses deux maisons, enfin, près d'Athènes, au bord de la mer, et elle ne peint pratiquement que les grands vaisseaux à voile, et puis les rochers. Et puis, quand je la vois, on évoque en permanence le vent. Et comme j'ai une maison, moi, près de Dieppe, sur la falaise, et que j'aime particulièrement le vent, sauf quand je suis à vélo, il est toujours contraire, il est toujours contre moi, il est toujours debout, le vent. Et moi, qui suis un homme debout, il est encore plus debout que moi. C'est vous dire la concurrence que j'ai avec Boré, Hyperboré et compagnie. Puis, quand on lit les Grecs, puisque j'ai appris mon grec ancien, et que je lis toujours mon Homère, eh bien, le vent est toujours là, le vent est toujours là. Alors, pour un Français, c'est le vent de l'esprit. Pour nous, c'est l'esprit du vent, non?
C'est l'esprit du vent. Il y a une phrase de Nietzsche qui est très provocante, mais en profondeur, qui dit « Malheur à celui qui crache contre le vent ».
Ah, je ne la connaissais pas, celle-là.
Ah oui, et je l'adore. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous porte et qui nous apprend à se laisser surprendre. C'est-à-dire à vivre chaque instant comme neuf. Moi, pour moi, advenir homme, en lettres capitales, c'est accueillir ce changement permanent. Et il y a un poème dans lequel je dis « Mort et naissance successives ».
Eh bien, lisez-le ce poème, car vous le savez, ici, je pratique la voix alternée, et vous allez le trouver pendant que je fais la longueur, comme on dit, pendant que vous le cherchez. Mais dites-moi un tout petit peu. Voilà, vous l'avez trouvé, allez-y.
Il en est ainsi de ta vie, d'heure en heure, comme de celle des fleurs qui naissent et se meurent. Mort et naissance incessante, qui forge et régénère ton être, laissant-tu dans tes tripes, laissant-tu dans ton sang, dans tes attentes inapaisées, dans tes pensées transportées par la sève de ton émotion, alors tu es. Alors tout paysage te parle, te sculpte, te burine, te taille, te terrasse et te relance. Et peu à peu, tu deviens ces paysages. Ils se répandent dans ton monde. Tu ne t'en différencies plus. Tu n'es presque plus, mais tu resplendis. Que tu sois le grain de sable d'un rivage, que tu sois une parcelle infinitésimale du mouvement incessant des vagues, que tu t'immisces dans le crépuscule flamboyant, pourvu que ton cœur y tienne, tu es toi. Terreur et paix, c'est là ton Dieu. Et tu perçois alors la vanité des luttes intestines de ce monde, ces faux tourbillons et ces fausses ententes, pour entrer enfin dans le tourbillon de la danse du monde.
Quel est le mot le plus important dans ce poème?
Le rôle.
Quel est le mot le plus important? Oui, qui a le plus grand rôle.
Il y a le mot...
J'ai quelque idée.
C'est être dans la danse, dans le mouvement, dans les naissances et les morts incessantes. Donc les suspensions et lancements, relancements incessants de la vie.
Vous avez dit tout à l'heure, cher ami, advenir. Alors, je dis souvent, parce que j'ai un rôle pastoral comme ça dans mon église protestante, le royaume de Dieu adviendra. Ça veut dire qu'il vient de l'avenir vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers l'avenir. C'est l'avenir qui vient à notre rencontre. À chaque instant, l'aiguille qui avance est une merveilleuse surprise, puisqu'elle nous permet de rencontrer ce que nous ignorons encore. Et je l'ai dit souvent à ce micro, j'ai un secret de vie que je veux répéter en permanence le jour où je regarde et je remarque, j'aurais dû le remarquer depuis mon enfance, qu'à l'entrée des pièces de Corinne Racine, il est marqué une journée en cinq actes. Je me dis, mais donc chacune de mes journées a cinq actes, donc chaque jour est une vie entière. Donc moi, je n'ai que l'âge. Ce matin, je me suis levé un peu tôt, c'est-à-dire à 4 heures du matin, ce qui m'arrive assez souvent. Ça veut dire que à l'heure où nous enregistrons, il n'est pas 3 heures, je n'ai pas 12 heures. Vous vous rendez compte, le jeune innocent que je suis. Et ce soir, j'aurai achevé ma course, avançant vers le terme de cette journée en 5 actes, qui commence par la naissance du jour et se termine par sa clôture. Et demain, je vais recommencer. Et aujourd'hui, je n'accumule pas les années, je différencie les jours. Et chaque jour, le temps advient. Et ce que je vais vivre ce soir, est tellement surprenant par rapport à ce que j'ai prévu ce matin. Et cet advenir, vous parliez de surprise, ça veut dire que nous... alors ce mot, pour moi, ne me va pas lâcher prise. Je veux dire que nous n'avons aucun contrôle. C'est nous qui sommes sous le souvenir comme sous l'avenir, qui sommes sous l'arbre comme sous le ciel, qui sommes tout simplement de merveilleux jouisseurs du monde. Advenir veut dire jouir, n'est-ce pas ? Se réjouir. En plus, on le fait deux fois, et trois fois, et quatre fois, et cinq fois. Cette poésie, est-ce que, avant que nous écoutions, nous allons avoir, cette fois-ci c'est moi qui ai choisi, et l'autre jour je rencontrais une jeune infirmière qui fait un travail remarquable pour les soins à domicile, dans le cadre d'une association enfin qui est dans le 91, et bah, il se trouve qu'elle est liée à un merveilleux claveciniste, et je me suis occupé beaucoup de musique baroque, et nous entendrons en trois fois une sonate, qui est une sonate en ré majeur, de Johann Heinrich Schmeitzer, c'est l'ensemble Stravaganza, un des meilleurs ensembles de musique baroque, qui formera une sorte de liaison. J'ai souhaité ça, puisque je me suis dit qu'il fallait que ce soit la même pièce musicale, dans la mesure où j'ai considéré que votre vie faite de surprises est une vie quand même qui se relie en permanence et qui n'a pas perdu ni ses origines, ni ce vers quoi elle va, puisque nous sommes au milieu du monde. Alors, dernière chose que je voulais vous poser comme question, dernière chose, est-ce que c'est une chose que je pose ? Oui, peut-être sur la table. Donc, dernière remarque que je voulais faire, ça serait mieux dit, c'est, est-ce que la poésie vous a servi de sauvegarde, de conscience, de lien ? Enfin, quel mot vous mettriez en face avec le signe égal, poésie égale ?
Transport. On est transporté. Et en même temps, on se découvre. C'est la surprise par excellence.
Alors, on revient au mot surprise, au transport. Alors, vous savez que transport au pluriel, bien, moi, je cherche toujours les transports amoureux. Et vous parlez aussi d'amour dans ce livre. Nous y viendrons tout à l'heure, puisque sans amour, que serions-nous sans notre chère grande Claudia, là, qui est derrière la vitre? Mais nous n'aurions pas cette musique que nous allons entendre. Thank you.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà que nous sommes dans un climat, grâce à Dominique Gillon, la violoniste, qui a cofondé avec Thomas Soltani la Stravaganza. Et nous avons entendu une musique qui chante, une musique virtuose aussi, qui est à la fois posée et élévatrice, comme vous disiez tout à l'heure, chère Victoria. À propos de prénom, le mien, c'est parce que ma mère voulait que je sois l'émule ou l'héritier de Blaise Pascal, mais il y a un peu de Pâques dans Pascal. Et vous, Victoria, pourquoi ce prénom?
Tout modestement, c'est le prénom de la mère de mon père d'origine crétoise, crétois, qui s'appelait Victoria. Et c'est aussi parce que je suis née quelques jours après la libération de la Grèce, en mois d'octobre 1944.
Que moi, étant né la même année, le 13 mai, c'était le jour où les armées alliées arrivaient en Italie pour libérer l'Italie. Donc, nous sommes les enfants de pays libérés, et c'est la libération qui fait la liberté, et non pas le contraire. C'est très important de le dire aujourd'hui, mais c'est aussi, bien sûr, spirituel. Nous parlions de l'amour tout à l'heure, juste avant cette entrée en musique. Quel rôle a-t-il joué dans votre vie et ensuite dans la poésie et dans Évidence et Certitude?
Capital, j'ai envie de dire. Il a été présent de bout en bout et il l'est toujours. Et il fait ce que je sens être ma jeunesse. J'ai l'impression que jusqu'au jour où notre corps nous quitte, on est jeune quand on est dans l'amour. C'est comme ça que je le sens.
Et cet amour, vous l'avez exercé vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tous et à tout moment?
J'allais dire, il a jailli, et je crois que l'amour ne peut être qu'un jaillissement, d'ailleurs comme la poésie, comme tout ce qui est création et créatif chez l'homme. Il a jailli, mais il était d'emblée dans mon projet d'être thérapeute. De l'âge de 13-14 ans, de tout ce que j'observais de ma famille, de l'école, des gens, de moi à l'intérieur, j'étais très observatrice et je notais beaucoup de choses et il y avait peu de personnes à qui je pouvais parler. Donc, dans ce choix de métier, c'est de profession, il y avait comprendre, écouter et aimer.
Alors, puisqu'on est à aimer, lisez donc à nos amis de Radio Courtoisie ce poème que vous avez choisi. Moi, j'en ai un, page 89, mais peut-être ce n'est pas le même. Il commence par l'amour, ça.
Oui.
Ça ne se parle pas.
C'est... Ah oui.
Mais celui-là, je le lirai après.
Oui.
Celui que vous avez choisi, je vous le laisse maintenant retrouver dans le petit livre anthologie publié à 100 000 milliards, Victoria Coronakis, que nous allons entendre dans un instant. Voilà. Je laisse établir un peu de silence pour la préparation à ce poème qu'elle a retrouvé.
Ta présence auprès de moi est comme l'encens qui se répand dans cette chambre ensevelie pour t'animer. Ton souffle auprès du mien contient les sillons de cette terre travaillée, humidifiée, torsadée et brûlante sous un soleil ardent. Tes mouvements, ta sueur, la laine à peine perceptible qui remue tes cheveux, tes yeux, ta barbe sont une brise à peine sensible qui fait frémir le feuillage des oliviers à l'heure torride du midi de mon pays aimé. Tu es mon homme, tu es mon ombre, tu es mon être bien-aimé, tu es la trace, tu es la trame dont la vie qui me fait, qui me sculpte, qui me terre, qui me met en colère, qui m'opprime, qui m'enchante, qui me rend méchante à force d'aimer. Aimer au-delà de dire aimer, aimer au-delà de donner pour être aimé, aimer comme les rochers font dire à la terre la naissance des sources inoubliées, aimer comme le diamant taille le verre pour lui donner la marque de son baiser. Et la vie n'est que tailler, sculpter, trier, étreindre et se donner. Je me donne à la terre, je me donne aux oliviers, je me donne à la sueur du labeur quotidien, je me donne à l'encens, je me donne à ton corps qui a su se donner.
Ensuite, un deuxième poème dédié à l'amour. L'amour, point d'interrogation. Cela ne se parle pas. Cela s'inscrit, se grave, se sculpte, se trace. Et tu emportes la trace. Cela s'amoncelle par petites graines étincelantes au creux de ta solitude. Cela se vit. Laisse-toi porter par ce flot. Embarque-toi dans ce voyage. Berce-toi dans ces ondes. Laisse-le t'irradier dans sa lumière, lumière et obscurité, comme celle que les rocs renvoient sur la surface transparente des eaux de la mer, insondées par le soleil de midi. Penche-toi sur lui, n'aie pas peur. Plonge! Plonge profond dans ses turbulences. Si ton cœur t'y lance, si ton corps le crie, ton être en transe, vis! Ces moments, vis-les au plus terrible de toi-même, dans les plis et replis de ta terre, de ta chair, dans le mouvement même qui, à chaque instant, te tisse et te défait. Tomber, surgir, entrer, sortir, t'enlacer, l'enlacer, brûler, crier, sauver, s'en éprendre éperdument, se laisser être. Quand vous entendez ce que vous avez écrit, quand vous vous relisez, vous revivez, vous vivez, vous vivrez, passé, présent, futur, comment liez-vous les trois dimensions?
Oui, on a un seul, les trois en un seul. Il y a, mais merci pour la question, parce que il y a une dimension, un vécu de l'espace qui se transforme complètement et qui est propre à la poésie. Probablement à la musique aussi, mais d'une autre manière. Mais c'est vrai que, on retrouve le vent, on le trouve le tourbillon de la vie, tout converge et s'enlace et s'élance vers toutes les directions.
Vous me faites penser, parce que ma formation est Rudolf Steiner, ma mère était anthroposophe et je suis son héritier. Et pour Rudolf Steiner, qui a inventé la culture biologique au début du XXe siècle, et le centre mondial est dans mon autre pays, la Suisse, à Dornach. Et il a basé toute, je dirais, son analyse de la matière sur la spirale. Et vous avez fait ce geste à l'instant de l'élancement. Alors que, puisque nous sommes en poésie et en amour, je voudrais lire un poème. De temps en temps, je lis un poème dont je suis l'auteur. J'en écris un tous les jours, hein. Depuis toujours. Ma première femme, j'étais marié 30 ans, elle en a eu 10 000, dont j'ai fait d'ailleurs un extrait illustré par Robert Couturier qui s'appelle L'accès d'amour. Et un de mes derniers poèmes, et je l'ai choisi pour vous parce que son titre, c'est La houle apaisée. Sommes-nous un jour ou l'autre apaisés? Ceci est une autre chose. Et c'est dédié à une femme qui est dans ma vie. Elle dort, rêve, attend peut-être que je revienne vers elle, qui est venue pour essayer la vie surprenante. Je n'ai longtemps su qu'être neuf, alors que je n'étais qu'une suite de l'histoire des solitudes et des face-à-face. Les mots s'ajoutaient aux mots en des suites de petites morts que je gardais dans le secret de peaux vides. Les perles ajoutées aux perles ne sont apparues au coup de la belle rencontre, faute de fermoirs et doigts d'orfèvre. De moment en moment, le poème de nos paroles mêlées au souffle de mon amante lève nos corps aux fortes étreintes. Ainsi a surgi le chevalier après la traversée sans épée du monde, aux erreurs longues, pour atteindre la reine de cœur. Approuvé parce qu'éprouvé le miracle d'un couple précède toute alliance et fonde l'innocence en or. Rien ne sera plus altéré, ce qui fut comme sera, rendu plus pur que l'imagination des premiers emportements. Cette fois, l'alliance a précédé le voyage. Et la porte de nos couches ouvre les portes du palais, entre bouche et ventre, qui lance le désir à travers les nuits illuminées, par l'art inédit de la plus douce confiance, en nos constants retours au désir. Ce désir particulier, qui ressemble à la reconnaissance de quelque chose, jusqu'à nous, parvenu, sans nulle prophétie. Le temps est maintenant venu des saveurs de chair, offertes aux amants à l'instar des prières et confidences. En terre mouillée de leur sueur d'amour s'enracine l'arbre de vie, dont ils ont prévu cueillir fleurs et fruits en toute saison de l'heure sans fin. Voilà ce que je voulais faire entendre. C'est le dernier mot, comme je l'ai dit, l'heure sans fin. Et j'écrivais tout à l'heure, toujours à cet homme qui m'interrogeait, cet ami, cet architecte poète breton, sur la poésie, je lui disais que la poésie, c'est l'éternité de l'éphémère. Elle nous immortalise, elle nous rend comme des dieux, en tous les cas, sortis de notre humanité, je dirais contingente, tout d'un coup, elle devient astringente. Et je m'entends parler là à l'instant et improviser. Et effectivement, il y a quelque chose de merveilleusement excitant dans la poésie. En même temps qu'elle nous donne une solution, elle nous provoque parce qu'elle est une énigme. Est-ce que l'on sait ce que l'on a écrit quand on l'a écrit ? On attend ce qui s'écrira, non ? On attend ce qui va venir.
On attend et on n'attend pas. Moi, cette phrase, cette expression, l'éternité de l'éphémère, me parle beaucoup. D'abord, il y a un poème avec l'éphémère dedans, mais peu importe. C'est, en tout cas, c'est un mouvement de dépassement des contraires. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Parce que on est transporté dans la création pure et dans l'inspiration, dans le lien avec en haut et dans le va-et-vient de je suis toi, tu es moi, au-delà des valeurs consensuelles. Et effectivement, ça donne des ailes. Ça donne des ailes. C'est le dépassement. C'est le dépassement de soi.
J'aime toujours rappeler que nos omoplates sont nos départs d'ailes. Il est possible que nous ayons été d'abord des anges. En tous les cas, puisque j'ai eu la chance de connaître Wim Wenders, que j'accueillais chez moi quand j'avais créé Flèche d'Or Café, qui a été le grand café musique de Paris des années fin 20e siècle, début 21e, je le recevais et que son film Sur les ailes du désir est mon film culte et que moi je suis bien l'ange descendu de la colonne de Berlin qui devient amoureux d'une trapéziste. D'ailleurs, toute ma vie a été d'être amoureux des trapézistes, donc de temps en temps, elle s'envole et j'en cueille une autre en redevenant un ange. Mais ceci est pour faire sourire nos auditeurs. Nous allons bien continuer notre écoute de la Stravaganza avec la suite de la sonate numéro 4 en ré majeur de Johann Heinrich Schmeisser. Ça, oui, un peu, je l'ai vu, je m'en. Voilà que nous sommes là en train de nous balader. Et le mot balade, vous savez, chers amis, je le rappelle, balade avec un L, c'est la promenade d'une manière un peu familière, mais la balade avec deux ailes, c'est la balade des pendus de François Villon, et c'est une forme poétique. Justement, aujourd'hui, nous pratiquons une poésie tous assez libre, qui se prononce comme elle s'est manifestée et qui se dispose typographiquement à mesure que nous respirons. Justement, moi, j'écris comme je pense, mais en même temps, je le dis à mi-voix, et comme je suis musicien avant d'être poète, je l'entends. Comment écrivez-vous ? Comment approuvez-vous ce que vous avez écrit ? Vous le corrigez beaucoup, peu ? Enfin, comment ça se passe ? L'acte.
Non, je ne corrige pas beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Qui m'a surprise.
Je sais bien que je suis maniaque.
Qui m'a surprise, mais c'est vrai que c'est au-delà de féminin, masculin, mais c'est de voir les rimes qui s'imposaient au fur et à mesure à une jeune femme, je parle des premiers poèmes, mais j'en ai écrit beaucoup au début, qui avait 10 ans en France et qui était originaire de Grèce et qui se baptisait dans une langue une autre que la sienne. Et ça jaillissait, et j'allais dire que c'était vital de mettre en forme ce qui jaillissait à ce moment-là.
Jaillir. Quand je lisais Paul Verlaine, et je l'ai souvent rappelé dans maintes occasions, il a cette image, en parlant des jets d'eau, il dit les jets d'eau sveltes. C'est vrai, quand on voit un bassin avec un jet d'eau bien lancé vers le ciel, il est svelte. Et le jaillissement, c'est le rocher frappé par Moïse, l'eau jaillissait. L'eau est toujours une pression délicieuse. Qu'elle descende, qu'elle sorte, qu'elle coule. Voilà, elle jaillit et rejaillit. Mais je voudrais vous poser une autre question. Comme chacun sait ici, depuis un quart de siècle, j'anime cette émission fondée par Pierre Dehaye, dont je suis au fond le disciple, et qui a été mon sixième père. J'ai eu la chance d'avoir six pères, je suis un homme très riche. Et dans son livre « L'art, arme des âmes », je rappelle qu'il était président de l'Institut de France, etc., tout en étant le patron de la Monnaie de Paris, il y a un passage très intéressant dans sa rencontre avec Brassailles. Je n'ai pas eu la chance, j'étais l'ami de Robert Doisneau, mais je n'ai pas été l'ami de Brassailles, je ne l'ai pas rencontré, et c'est sur la question d'être artiste. Et voilà le dialogue, n'est-ce pas, dans cette question que je vais poser après. Vous êtes, écrit Pierre Dehaye, en parlant à Brassailles, le grand photographe, vous êtes un de ces êtres rarissimes qui sont à la fois profondément artistes et totalement anti-artistes. Toute une part de vous est artiste, c'est évident. Vous avez reste prouvé que vous êtes par la sensibilité de la race des créateurs. Et vous comprenez mieux que quiconque, par l'intérieur, le processus d'être de l'artiste en tant qu'il crée et en tant qu'il assume dans la vie courante ce créateur qu'il porte comme un frère siamois plus ou moins mal commode. Mais vous êtes le contraire de la plupart des artistes. Pour eux, une seule vérité, la leur. Celle qu'ils secrètent par leurs œuvres. Celle du monde dont ils sont le centre. Dans la mesure où ils pensent, parlent, écrivent, ils s'attachent à tout prix à la justifier, subordonnant leur intelligence, voire leur cœur, à leur sensibilité. Mais vous gardez un jugement intact. Votre intellect est à volonté déconnecté. Le bon sens, c'est-à-dire le sens commun, resplendit dans vos écrits, comme une perle précieuse. Si vous vous faites complice, affidé, si vous adhérez à un groupe ou signez un manifeste, c'est en totale indépendance d'esprit, non pas en fonction de ces automatismes, etc., etc. Comment réagissez-vous au mot artiste ? La psychothérapeute poète est-elle une artiste de la vie, une artiste de l'écriture, une artiste de la thérapie de l'âme, puisque après tout la psyché, comme je suis un fou d'Eros et Psyché.
D'abord, très, très modestement dit, artiste de la thérapie de l'âme, de aider l'âme à déployer ses ailes. Et en écoutant ce texte, j'ai envie de dire attention, parce que ce qu'on appelle l'art, l'artiste, c'est quelque chose qui existe et que j'ai découvert récemment que ça existe chez l'enfant. Et le travail du thérapeute, l'enfant poète, j'ai écrit ça dans ce texte d'introduction que je vous ai envoyé, au fond, jaillissement, inspiration, vibration, spirale, dont on vient de parler, oui. C'est ça qui constitue le mot intellectuellement formulé comme artiste. C'est cette composante de tous ces éléments avec laquelle nous venons au monde. L'être humain est un créatif, un créateur potentiel. Et là, je vous avais envoyé un texte avant-hier qui exprime ça, parce que c'est ça que le thérapeute essaye de faire découvrir dans les excavations en soi et chez l'autre. Le jaillissement de l'enfant qui est ouvert à tous les horizons et qui a été matraqué par des millénaires, des générations, des familles, des consensus, etc., etc. Et ça, notre époque, elle peut être sensible à ce dévoilement.
Oui, je pense que en ce sens, vous venez de dire une chose très profonde, et j'ai été élevé par des apocalyptiques sur les adventistes du septième jour, alors que je suis calviniste, qui croient à la fin du monde, au temps des nations, au temps apocalyptique, ce que nous avons l'air de vivre maintenant. Ils l'ont prévu il y a des années, ça finit toujours par se dérouler, mais nous sommes en ce moment, et d'où l'importance des fake news, ici on ne parle pas anglais, mais je le dis quand même, l'importance du mensonge aujourd'hui qui a remplacé le songe en politique. Avant, on faisait rêver, maintenant, on fait cauchemarder. Voilà. Eh bien, effectivement, cette manifestation du mensonge est telle parce qu'il y a dévoilement. Et aujourd'hui, il y a une lutte armée entre ce qui est et ce qui n'est pas, en gros. Et vous venez de toucher quelque chose qui m'est extrêmement cher, à savoir... Puisque j'ai été administrateur de la maison d'enfants Françoise Dolto à Saint-Chéron, que j'y ai adopté des enfants, j'en ai perdu une qui s'est défenestrée, que j'en ai une autre qui est responsable de l'entretien des salles d'accouchement des diaconesses, un lieu très important où je suis né, dont j'ai été aumônier en second, où mes deux autres filles de sang ou adoptives ont été à l'école d'infirmière, enfin, etc., qui compte beaucoup dans ma vie. Et effectivement, on a dit de Françoise Dolto, protestante comme moi d'ailleurs, ou moi comme elle, plutôt, ce serait plus juste à m'en dire, qu'elle était de l'enfant impérial. Non, elle est de l'enfant révélé. Cette infance qui n'a pas la parole, puisque c'est cela que ça signifie en latin, infance, eh bien en réalité, il a quelque chose de plus extraordinaire, c'est que la parole naît en lui pour nous la donner. Et effectivement, vous avez dédié votre livre... donc, je rappelle, évidence et certitude, à la Grèce, source intarissable de beauté, de richesse spirituelle et culturelle, à l'amitié. Pourquoi vous ne l'avez pas dédié à l'enfance ?
Parce que je viens.
Parce que quand je vous vois, là, de l'autre côté du micro, vous avez un petit air d'enfant. C'est un compliment.
Mais écoutez, parce que j'ai découvert ça au fur et à mesure. L'enfant, c'est en lisant vos poèmes, par le recueil de votre poème, le dernier.
Ah Almas, oui, Almas.
Almas. Par lequel on s'est rencontré, vous me l'avez envoyé, oui. Que l'enfant poète, en écoutant les poèmes d'un autre, j'ai découvert ce qui était au plus profond de moi et de nous, poètes ou aspirants à l'être, la genèse chez l'enfant. Voilà.
La genèse, on est bien d'accord, c'est ça. Oui. Ce commencement du jour dont je parlais tout à l'heure, qui fait que chaque jour, en fait, je vais être clair, chaque jour je nais enfant, je termine vaguement adulte, mal fabriqué, mal formé, inachevé en tous les cas, et j'aime beaucoup la symphonie inachevée. Oui, et je voudrais simplement citer un quelques vers de ce recueil Almas que vous avez cité à l'instant. « À toi qui m'entends comme vent sur sable, la tête vide, le cœur plein, les mains en sablier, gardant le temps sous les étoiles, mais pas pour laisser des empreintes de berger sur les hauts plateaux. » Eh bien, effectivement, nous sommes sur les hauts plateaux de la poésie en ce moment. Cette poésie où, parce que l'émission va bientôt se terminer, je voudrais en lire un poème qui est toujours dédié à l'amour de vous, n'est-ce pas, dans cette anthologie, et qui est peut-être plus allusif ou moins allusif, ça dépend. En tous les cas, plus évocateur que les autres encore. Je te couvre, je te vis, je t'enlace et je suis. Je sens la lumière de tes regards sans qu'elle puisse m'être donnée. Je sens la lueur de tes spasmes qui accompagnent les miens. Je traverse un chemin que tu as peut-être traversé autrement, qui le sait. J'aimerais partir avec toi pour un long voyage, loin des turpitudes, des séductions, des tricheries, des dominations et des fascinations de ce monde. Seul avec toi, dans un navire toute voile déployée, vers un monde non point imaginaire, mais réel, de peinture, de sculpture et de volupté. Vers cette Inde natale que je n'ai jamais connue, cette Inde découverte et recréée par mon intérieur que je cherche à rencontrer. Dégager des défenses, dégager des subterfuges et de fausses allégeances, que tu sois homme ou femme, l'essentiel est cette envolée, l'essentiel est de s'unir et partager ce voyage à toute voile déployée, où le connu et l'inconnu se fondent l'un dans l'autre, car il n'y aura plus d'apparence. Nous serons ces goélands pour qui tout est vrai, tout est tangible. Tout est révélé, traversé, tout est là. Vous aviez quel âge quand vous avez écrit ce poème ?
J'avais 35-39 ans et je suis épatée.
Et quand vous écriviez, vous vous relisiez souvent ou pas ? Je veux dire par là, est-ce qu'une fois écrit, il va vous servir de relais ? Je me relis peu, mais je me relis de temps en temps. J'en suis à 22 livres, 22 poètes, parce que sinon j'ai écrit plus de 100 livres, enfin publié plus de 100 livres. Mais je veux dire, je me relis de temps en temps et ça me resserre sur moi-même. Enfin, comme un relais quand même, comme des bornes miliaires dans les routes romaines. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous les oubliez, laissez dans un coin et puis vous les avez rassemblés ? Est-ce que ce livre, il vous sert, ce livre que vous avez offert aux autres ?
Il m'a servi à partir du moment où je l'ai exhumé. Et je pense à la thérapie, mais là, je suis très arriérée par rapport à mon travail, vraiment. J'ai osé ouvrir mon tiroir, relire. Et je me dis, mais enfin, il faut mettre ça à la lumière. Et je l'ai donné à une amie. Et elle m'a dit, fulgurance. Je connaissais à peine le mot. Il faut éditer.
C'est un mot qu'on emploie beaucoup à mon égard. Et moi, j'ai en permanence des visions, parce qu'il se trouve que je suis chaman, par ailleurs. Et c'est des fulgurances, enfin, ça m'arrive comme ça, parce que vous parlez de rencontres, mais moi je suis en permanence rencontré, y compris dans nos rencontres autour de ce micro. Parce que voilà, c'est... Donc vous vous êtes rencontré, ce choix, et il y a combien de temps ? Il y a un an, deux ans, trois ans ?
Oh, il y a cinq, six ans. La période de Covid est la période la plus heureuse de ma vie et la plus féconde.
Alors ça, beaucoup de mes amis le disent. Alors, ils me disent que le Covid a été une rupture. Alors, c'est vrai que je me méfie beaucoup. Je suis historien avant d'être architecte et je suis profondément historien et théologien par ailleurs. Donc, je me méfie. Les gens me disent, à titre individuel, le Covid fut merveilleux. À titre collectif, il a tout changé. C'est une rupture et ça va mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire ? L'histoire, c'est chacun qui l'interprète. Mais c'est vrai que le Covid a été, en tous les cas, un moment... de délicieux ermitages, pour ceux qui n'ont pas été malades, ce qui est mon cas, voilà, donc qui ne vont pas été non plus attaqués par les vers, comme on dit, n'est-ce pas ? Et alors, puisque l'on parle, juste avant d'écouter la dernière plage musicale, la suite de cette merveilleuse interprétation de l'ensemble Stravaganza, quel est, au fond, le mot que vous emploieriez pour définir ce moment dont vous dites qu'il a été si important dans votre vie ? Je parle de la période du Covid.
Le mot, la découverte de nos ressources insoupçonnées, personnelles, mais en toute humilité, hein, parce que c'est aussi le déploiement du travail thérapeutique, l'accouchement. Voilà, c'est l'accouchement, c'est le mot. C'est l'accouchement qui se fait à travers nous, dont on est porteur et transmetteur en toute humilité, encore une fois, chez les autres, et devancer, dépasser, sans contrôler, sans vouloir. Voilà. C'est du registre de l'amour, c'est ça.
Comment, cher ami, ne pas vous remercier, si ce n'est avant de dire vive la poésie, comme toujours, à la fin de cette émission, à la manière de Jean-Pierre Ronet, que dans un des poèmes que j'ai écrit récemment, qui était écrit d'ailleurs le jour du samedi saint, entre prière et mémoire, je disais « Salut d'aube, de la présence à nos présents, lui donnerai-je un nom qui bénisse la promesse d'advenir. Nous voici marchant depuis l'absence. » Je crois que toute votre vie et toutes nos vies, nous marchons depuis l'absence vers la présence. Merci d'avoir été là. Merci Victoria.
Merci infiniment, Pascal.
Merci et merci à Claudia. Et vive la poésie!
Vous venez d'entendre Promenade et Flâneries au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Penzeller, émission préenregistrée le 17 avril 2026 et diffusée vendredi 19 juin 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.